Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, l'épître d'aujourd'hui est tirée du prophète. Le prophète parle au nom de Dieu et il nous exhorte à nous convertir, à revenir au Seigneur. Nous allons expliquer brièvement ce texte qui souvent, comme pour tous les textes de l'Ancien Testament, est un peu obscur pour nous. Nous verrons qu'il comporte quatre parties. D'abord, un appel de Dieu à la pénitence, puis des motifs pour nous y encourager. Ensuite, la description de ceux qui doivent faire pénitence. Et enfin, le prophète termine par énumérer quelques fruits que nous en tirerons. Ec dicit Dominus, convertim in adme, in toto corde vestro. Voici ce que dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi. C'est lui qui nous prie de revenir à moi. Nous devrions le prier de nous recevoir. À notre baptême, notre âme s'est attachée à Dieu. Elle a contracté avec Dieu comme un mariage. Par le péché, nous avons quitté l'époux de notre âme pour nous attacher au démon. Et c'est Dieu qui nous supplie de revenir. Le prophète Jérémie pose cette question. Si une femme, après avoir quitté son mari, en épouse un autre, son mari la reprendra-t-elle, la reprendra-t-il encore? Et il met cette réponse dans la bouche de Dieu. « Toi, tu as fait le mal, et néanmoins, reviens à moi, dit le Seigneur, et je te recevrai. » Reviens à moi. Le Seigneur nous supplie de revenir à lui, et il précise, « Revenez à moi de tout votre cœur. » De tout votre cœur. Il y en a qui se convertissent, qui reviennent à Dieu, par la pénitence, mais pas de tout leur cœur. Celui qui quitte un vice ou un péché, mais qui en conserve un autre, ne se convertit pas de tout son cœur. Dieu est infiniment miséricordieux. Ne lui demandons pas une demi-miséricorde. À quoi servirait un blessé qu'on lui guérisse une blessure si on lui en laisse une autre mortelle? À quoi servirait de fermer toutes les portes d'accès d'une ville assiégée si on en laisse une ouverte par où entrera l'ennemi? Nous devons donc faire pénitence pour tous nos péchés, pas seulement pour quelques-uns. La pénitence ne consiste pas seulement à cesser de pécher, il faut encore expier les péchés passés. Et c'est pourquoi le prophète ajoute « Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, dans les larmes et dans les lamentations. » Dans le jeûne, car le jeûne est la principale pénitence de carême, mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule que nous pouvons faire, mais elles sont toutes sous-entendues dans ce mot. Les œuvres de pénitence doivent être accompagnées par des sentiments de contrition. Aussi le prophète ajoute « dans les larmes et dans les lamentations », qui signifie la contrition que nous devons avoir. À la satisfaction et à la contrition, il faut joindre la confession de nos fautes. Ce qui est signifié par la phrase « déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Le prophète s'adresse directement aux Juifs qui déchiraient leurs vêtements de façon théâtrale, mais ne regrettaient pas leurs péchés. Mais il s'adresse aussi indirectement à nous, en nous signifiant que notre confession doit être faite avec le cœur, pas seulement avec la bouche seulement. Il faut les deux, à la fois la contrition du cœur, qui est la plus importante, et aussi la confession extérieure, au moins pour tous les péchés mortels dont on se souvient. Celui qui ne voudrait pas confesser ses péchés serait semblable à celui qui souffrirait d'un ulcère et ne voudrait pas qu'on le perce. Mais l'ulcère ne pourra jamais guérir, de même celui qui ne confesse pas sa faute ne peut en guérir. Après avoir supplié de revenir à lui, Dieu ajoute des motifs propres à nous encourager. Revenez au Seigneur votre Dieu, parce qu'il est bienveillant, miséricordieux, patient, riche en miséricorde, et sa miséricorde l'emporte sur toute malice. Le prophète énumère 5 attributs de Dieu qui montrent sa miséricorde. Un auteur du Moyen Âge dit élégamment que ce sont les 5 doigts de la main de Dieu qui nous attirent à lui. Convertissez-vous au Seigneur. Revenez au Seigneur qui vous attend, parce qu'il est bon. Benignus est. Il est miséricordieux. Misericors est. Son cœur se penche sur le pécheur, et si celui-ci tarde un peu, il est patient. Patiens est. Mais le pécheur ne peut-il pas craindre qu'il a déjà tant abusé de la miséricorde de Dieu que celui-ci ne voudra plus le recevoir? Aussi Dieu précise qu'il est riche en miséricorde, multae misericordiae, au point que sa miséricorde l'emporte sur toute malice, prestabilis super malitia, c'est-à-dire qu'aucune malice, aussi grande soit-elle, ne peut vaincre sa miséricorde. Donc personne, quelle que soit sa misère, quels que soient ses péchés, même s'il a déjà bien abusé de la miséricorde de Dieu, ne peut dire « Cette fois, Dieu ne me pardonnera pas. Mon péché est trop grand. Sa miséricorde est infinie. » Le foyer ardent de la charité du Christ détruit en un instant tous nos crimes, à condition que nous les jetions en lui. Le pardon n'est refusé qu'à celui qui refuse de revenir au Seigneur et d'avouer ses fautes. C'est pour cela que le prophète ajoute « Qui sait s'il ne reviendra pas et ne pardonnera pas et ne laissera pas après lui la bénédiction, l'offrande et la libation pour le Seigneur ?» Si le prophète pose cette question, ce n'est pas qu'il doute de la miséricorde de Dieu, mais il ne veut pas que nous tombions dans la présomption et que nous imaginions que Dieu nous pardonnera de toute façon, même si nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous. Cette phrase signifie donc « Certainement, il reviendra vers nous et nous pardonnera, mais à condition que de notre côté, nous revenions vers lui et fassions ce qu'il nous demande. Il nous donnera alors la bénédiction, l'offrande et la libation. Par la bénédiction, il faut entendre la grâce. Par l'offrande, la ferveur dans le sacrifice. Par la libation, la prière dévote. Oui, si nous revenons à Dieu de tout notre cœur, il nous donnera sa grâce, la ferveur pour faire nos sacrifices et la dévotion dans la prière. Ensuite, le prophète énumère ceux qui doivent se convertir, c'est-à-dire tout le peuple chrétien. Il emploie même 3 mots synonymes, chetus, populus, ecclesia. C'est bien tout le peuple chrétien qui doit revenir à Dieu, qui doit faire pénitence, qui doit faire un bon carême. Les gens de condition et les gens du peuple, les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, tous sans exception, doivent faire pénitence et revenir au Seigneur, comme le dit le psaume « Omnes declina verunt ». Tous ont quitté la voie droite. Le prophète mentionne spécialement les prêtres et les ministres du Seigneur. Que les prêtres et les ministres du Seigneur pleurent entre le vestibule et l'autel, qu'ils disent « Épargnez, Seigneur, épargnez votre peuple, et ne livrez pas votre héritage à l'opprobre, en l'assujettissant aux nations. Pourquoi les peuples diraient-ils « Où est leur Dieu ?» Les prêtres et les ministres du Seigneur doivent pleurer entre le vestibule et l'autel. c'est-à-dire entre le peuple et Dieu, parce qu'ils sont les intermédiaires entre Dieu et son peuple. En échange des subsides temporels qu'ils reçoivent des fidèles, ils doivent leur obtenir des bienfaits spirituels. Et cela, ils le font surtout par leur prière et leur pénitence. Ils disent « Parce Domine, parce populo tuo, épargnez Seigneur, épargnez votre peuple. » Ils répètent deux fois parce qu'ils demandent pour eux et pour le peuple. Ne livrez pas votre héritage à l'opprobre en l'assujettissant aux nations, c'est-à-dire à ses ennemis, spécialement aux démons. Pourquoi les peuples diraient-ils « Où est leur Dieu ?» Nous encourageons Dieu à nous faire revenir dans le droit chemin en invoquant la raison très juste que puisque nous sommes son peuple, populo tuo, que nous sommes son héritage, hereditatem tuam, si nous continuons à être les esclaves du péché, cela fera croire aux ennemis de Dieu qu'il n'est pas capable de nous défendre. Pourquoi les peuples diraient-ils « Où est leur Dieu ? Où est leur défenseur ?» C'est bien dans cette intention que les ennemis de l'Église dénoncent les fautes des chrétiens, spécialement des prêtres, ou leurs prétendues fautes. Le monde est bien hypocrite, car il est rempli de vices et de péchés, aussi graves, sinon plus. Mais il accuse volontiers les chrétiens, comme si le bon Dieu qu'ils servent n'était pas capable de les retirer du péché. La fin de l'Épître décrit les fruits que l'on tire du retour à Dieu par la pénitence. Le Seigneur a été touché de zèle pour son pays et il a épargné son peuple. Le Seigneur a répondu et il a dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du vin et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre des nations. » Le prophète Joël parlait directement aux Juifs de l'Ancien Testament, c'est pourquoi il leur promet des récompenses temporelles, du blé, du vin, de l'huile. Mais pour nous les chrétiens qui vivons dans le Nouveau Testament, la récompense de nos efforts de carême sera spirituelle. Le blé, le vin et l'huile symbolisent la foi, l'espérance et la charité. Le blé est la base de la nourriture, et la foi est le premier aliment de l'âme, celui qui lui donne la vie et la fortifie. Le vin réjouit le cœur de l'homme et l'espérance réjouit l'âme à la pensée du ciel et l'aide à supporter les maux de la vie présente. Enfin, l'huile se place au-dessus de tous les autres liquides et la charité est au-dessus de toutes les autres vertus. La Sainte Vierge n'a pas eu besoin de faire pénitence, puisqu'elle n'éprouvait pas les désordres dus au péché originel, qu'elle n'avait commis aucun péché à expier. Et cependant, il est certain qu'elle a fait, comme notre Seigneur, bien des œuvres de pénitence. Elle les a faites non pour elle, mais pour nous encourager, pour nous donner l'exemple, pour nous obtenir la grâce de faire pénitence à notre tour. Demandons-lui donc aujourd'hui la grâce de bien faire notre carême de tout notre cœur dans le jeûne, les larmes et les lamentations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.